Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
C'est pas qu'on n'aime pas Madonna, mais il est temps de vous dire bonjour.
Et pourtant, on adore Madonna et on vous souhaite la bienvenue sur Europe 1. Alors, on le sait, c'est pas toujours facile d'ouvrir une paupière à 4h57, voilà. Même quand Material Girl résonne. Les deux, alors on oublie complètement les deux paupières. On a juste besoin de vos oreilles.
Ouais, merci de les ouvrir pour nous, vos oreilles. Merci de nous écouter chaque matin et d'être fidèles à Europe 1. Et comme chaque jour, on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 6h30.
Dans l'actualité, ce mercredi 20 avril, Julien.
Un duel au sommet entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir et ce sera à suivre à partir de 20h sur Europe 1.
Ce débat, c'est en quelque sorte le match retour d'il y a 5 ans.
Oui, on se souvient de la prestation totalement ratée de Marine Le Pen qui, paraît-il, a tout changé dans sa préparation cette année. On jugera sur pièce ce soir. Reste que la candidate du RN est à la traîne dans les sondages. L'écart se creuse même, donnée systématiquement perdante dimanche soir. D'où cette question, ce débat peut-il inverser la tendance?
Question qu'on posera à 6h10 à notre invité, le politologue Arnaud Benedetti, spécialiste en communication politique.
Les métiers de l'hôtellerie restauration, plus que jamais victime d'une crise de vocation.
Oui, si elle était déjà présente avant le Covid, la pandémie a catalysé le phénomène. Travailler le soir, le samedi, le dimanche, debout, avec en fin de mois un salaire jugé insuffisant. De nombreux salariés ont tourné le dos aux entreprises du secteur et elles ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux employés, que ce soit des cuisiniers, des commis ou des serveurs.
Et d'ailleurs, les professionnels craignent une pénurie de saisonniers cet été.
Une pénurie qui pourrait être historique. Comment rendre le métier plus attractif et les restaurateurs doivent-ils s'adapter aux nouvelles demandes des salariés? Nous poserons la question à 5 moins le quart à Didier Chenet, le président du GNI, le groupement national des indépendants hôtellerie et restauration.
Et qu'est-ce qu'il y a au menu de votre partition aujourd'hui?
Le groupe qui définit la nouvelle musique urbaine et romantique au début des années 90. Le triomphe des Boys to Men va montrer la voie au futur boys band américain de la fin du siècle. Rendez-vous à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour, j'avais les posters des Boys to Men. Là, on fait un petit bond en adolescence, là.
Ah oui.
On a des appareils dentaires.
Exactement.
Et quelques petits problèmes d'acné.
Ouais, ouais. On collectionnait les CD et les magazines.
Et oui. Bref, c'est loin.
Bon, la météo du jour.
Oui.
Hein, pas de celle d'il y a 30 ans.
Non.
Mauvais temps qui s'installe dans le sud.
Oui, comme hier, c'est vrai qu'on a un petit peu plus de régions touchées encore qu'hier dans le sud par ces nuages, des nuages très épais. Donc du Piémont pyrénéen jusqu'au Golfe du Lion, on a des pluies qui vont rester très soutenues, très intenses. Alors c'est vrai que le sud a besoin d'eau. Là, le sud va avoir de l'eau. Hein. On a des pluies très intenses sur toute la partie sud-ouest.
Oui, mais captée par la végétation,
Provence.
Pas dans les nappes phréatiques.
C'est la végétation, effectivement, qui va récupérer toute cette eau. Alors de l'Auvergne à la Corse, un petit peu plus au nord en passant par la Provence, là on a un ciel nuageux ce matin qui va devenir de plus en plus menaçant avec des averses cet après-midi. Et on a des orages qui éclatent en vallée du Rhône. Le vent se renforce au bord de la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Et puis à l'ouest, de l'Occitanie jusqu'au bassin aquitain, c'est très gris, c'est humide. Et puis au nord de la Loire, là, une France coupée en deux, le printemps se poursuit avec de belles éclaircies au nord de la Loire. Alors, température ce matin, 3 à Épinal, 5 à Strasbourg, 7 pour Clermont-Ferrand, 9 à Paris et 13 à Nice. C'est encore très doux.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce mercredi, le jour J pour le face-à-face Macron-Le Pen, le débat d'entre-deux-tours, c'est ce soir. Les deux finalistes jouent le match retour de 2017. Une soirée millimétrée avec pour premier thème le pouvoir d'achat. Et justement, il y a de la friture sur la ligne d'approvisionnement en huile de tournesol. Les rayons sont vides et les prix en hausse de 25 à 30%. Que se passe-t-il dans nos supermarchés? Reportage dans ce journal. Et puis en route vers un 10e titre de champion de France de football, le PSG pourrait être sacré dès ce soir à Angers au terme de la 33e journée de Ligue 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de cette matinale vous est présenté comme chaque matin par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. C'est le grand jour, débat d'entre-deux-tours ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Match retour de 2017, l'occasion ou jamais de convaincre les électeurs encore dans le doute. Ce rendez-vous, c'est peut-être le plus important pour les deux candidats à 4 jours du scrutin. Il y a 5 ans, 16 millions de personnes l'avaient suivi. Alors pour ce soir, les camps d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ne laissent rien passer. Tout est millimétré, Victor Chabert, chaque détail compte.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier. Ce sera Marine Le Pen qui prendra la parole en premier sur le thème du pouvoir d'achat. Ensuite seront évoquées les retraites, la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité, l'environnement et la jeunesse. Les candidats se feront face à une distance de 2,50 m. Léa Salamé et Gilles Boulot seront eux en retrait sur une table située à 4 mètres des finalistes. La température du studio sera de 19 degrés. Tout est strictement réglementé, notamment le cadrage. Il y a eu de grosse discussion sur les plans de coupe, c'est-à-dire ce plan sur le candidat qui n'a pas la parole quand l'autre intervient. Ils seront limités à une situation lorsqu'un candidat tient le regard de son adversaire. Les deux finalistes seront accompagnés de réalisateurs conseils placés en régie aux côtés du réalisateur principal de l'émission. Ils ont pour rôle de bien veiller au respect du règlement technique négocié. Du côté de Marine Le Pen, ce sera Philippe Ballard, ancien journaliste et porte-parole du RN. Et pour Emmanuel Macron, ce sera le réalisateur Jérôme Revon qui a réalisé ces meetings de la Défense Arena et de Marseille.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Évidemment, ce débat d'entre-deux-tours est à suivre sur Europe 1, émission spéciale à partir de 20h avec Alexandre Lemaire.
Et comme à chaque fois, chaque geste, chaque mot prononcé, chaque expression du visage, tout sera passé au crible, décortiqué, interprété, voire surinterprété. Pas de place à l'erreur donc pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Non, c'est certain, le moindre petit couac pourrait coûter très cher dans les urnes à chacun des deux candidat. Alors comment réussir sa prestation ou du moins ne pas la rater? Écoutez les conseils de Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy.
Les erreurs de certains participants, c'est de penser qu'ils seront meilleurs que les autres. Éviter les propos incompréhensibles, c'est-à-dire trop techniques. C'est un débat qui s'adresse à plus de 10 millions, peut-être 20 millions de téléspectateurs. Donc il faut paraître proche des gens et surtout qu'ils comprennent ce que vous dites. Et puis je pense qu'il faut aussi paraître sympathique parce que la télévision elle s'écoute avec les yeux et les gens adhèrent aussi aux gens et aux personnes qui sont sympathiques.
Franck Louvrier au micro Europe 1 d'Alexandre Chauveau.
Et ne manquez pas demain, juste après ce débat Macron-Le Pen et à 3 jours du scrutin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 et de CNews de 8h à 9h. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk et de Laurence Ferrari.
Et toujours concernant la présidentielle, arrivée malheureux 3e au premier tour à quelques 420 000 voix d'écart avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé pour la première fois hier soir depuis le 10 avril. Il appelle les électeurs à, je cite, l'élire premier ministre aux législatives en donnant la majorité aux insoumis et à l'Union populaire.
5h passées de 4 minutes sur Europe 1, on en vient à la guerre en Ukraine et Kiev qui renforce son armée de l'air.
Le pays vient de recevoir des avions de chasse et des pièces détachées selon le porte-parole du Pentagone. Les Occidentaux qui se sont mis d'accord hier pour renforcer les sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, car le conflit est entré dans une nouvelle phase avec une pluie de bombes et de missiles russes qui s'abat sur l'est de l'Ukraine. Les alliés veulent donc accroître l'isolement international de Moscou et adopter un nouveau train de sanctions.
Et en France, guerre en Ukraine et pouvoir d'achat sont intimement liés.
Oui, hein, tenez un exemple frappant, l'huile de tournesol, un basique dans nos cuisines pour faire une vinaigrette ou encore les fameuses frites du dimanche. On en consomme plus de 300 000 litres par an. Problème, la Russie et l'Ukraine représentent 80% des exportations mondiales. Alors quand elles ne manquent pas dans les rayons, en ce moment son prix explose. Écoutez ce reportage de Johan Tritz.
Je cherche l'huile de tournesol. Vous n'en avez plus depuis combien de temps?
Comme cette cliente, ils sont nombreux un peu partout en France à poser cette question dans les supermarchés. Aujourd'hui, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare, constate Nadia, mère de famille.
Je ne trouve pas. Là, il y a Franprix qui est à côté. Ici, on n'a plus. À Carrefour, j'y étais, il n'y a pas. Même Monoprix, je n'ai pas trouvé.
En cause, des rayons rapidement vidés à chaque réapprovisionnement. Raphaël, responsable d'un supermarché à Paris, n'a plus rien à vendre depuis plusieurs jours.
Les gens affluent sur l'huile et ont peur de manquer et en achètent parfois plus que de raison, donc 2, 3, 4, 5 bouteilles par personne. C'est ça qui crée aussi la pénurie. On va être vide jusqu'à jeudi matin.
Une pénurie qui fait gonfler les prix, entre 25 et 30% de hausse en France en 2 mois. Et cela impacte évidemment les restaurateurs comme Cyril, gérant du French Coco, qui l'utilise pour les fritures.
Nous, on est à peu près à 20 à 30 litres par jour. Le prix a doublé. Sur notre carte, on va être à 15 à 20% sur produits en friture. C'est sûr que ça réduit énormément nos marges.
Et si cela perdure, il n'aura plus le choix. Il devra, comme beaucoup d'autres restaurateurs, augmenter le prix de ses plats prochainement.
Johan Tritz, si vous ne trouvez pas d'huile de tournesol dans vos supermarchés, pas de panique. Essayez par exemple l'huile de colza, c'est neutre en goût pour vos assaisonnements, ou encore l'huile d'arachide pour vos fritures.
Oui, enfin rien ne vaut l'huile d'olive, hein, personnellement. Allez, on passe au foot. 33e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 10 matchs au programme. Et cette question, le PSG sera-t-il sacré dès ce soir champion de France?
Les Parisiens qui ont 15 points d'avance sur le dauphin marseillais se déplacent à Angers. L'OM reçoit Nantes. Les deux rencontres se joueront à 21h. Cyril Delamorinerie, ce soir c'est peut-être la soirée du 10e titre pour Paris.
Oui, pour être sacré, dès ce soir, les Parisiens doivent faire un meilleur résultat que l'OM. Ce sera par exemple le cas si Paris gagne à Angers et Marseille fait match nul, ou si les Parisiens concèdent le nul et les Marseillais s'inclinent. Alors d'habitude, les footballeurs préfèrent être sacrés devant leur public, mais le Parc des Princes ressemble actuellement à une cathédrale plutôt qu'à un chaudron, les ultra-parisiens ayant décrété une grève des encouragements. Voilà sans doute pourquoi l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino aimerait déboucher le champagne dès ce soir.
On veut gagner le titre le plus tôt possible. Les célébrations avec les supporters, ça viendra après. Personnellement, cela serait une immense joie.
Même privé de 9 joueurs, dont Messi, Verratti, Kimpembe blessé et Neymar suspendu, les Parisiens de Kylian Mbappé seront largement favoris ce soir. C'est simple, ils ont marqué 2 fois plus de buts cette saison que les footballeurs angevins. En tout cas, le PSG espère imiter le LOSC la saison dernière. C'est devant le public angevin que Lille avait validé son titre de champion de France.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Parmi les autres rencontres à suivre, un derby de la Côte d'Azur avec Monaco-Nice à 19h, Bordeaux-Saint-Etienne à la même heure ou encore Brest-Lyon à 21h.
Merci beaucoup Alban Le Prince. Attendez, restez avec nous, on a encore des choses à se dire.
Kevin Rachel.
Eh ben joyeux anniversaire.
C'est gentil, merci.
Bon, on vous demandera pas l'âge, hein, parce que c'est un peu indécent à 5h08.
Je ne le dirai pas de toute façon.
Bon anniversaire Alban. Il est 5h08. On passe en course avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cordemais en Loire-Atlantique. Et mon pari gagnant sera le 708, Ironie du Guélier. Cette jument en plein épanouissement qui défend la casaque du chef étoilé Manuel Martinez vient d'être prématurément et sévèrement disqualifiée à Vincennes. Et comme sa qualité ne fait aucun doute, ni sa condition physique ascendante, elle trouve ici des conditions idéal pour obtenir une juste compensation. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Cordemais, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 8, Ironie du Guélier.
Ironie du Guélier. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon matin, bon réveil. Le pressing à présent sur Europe 1 et nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
On commence avec vos journaux qui évidemment consacrent tous leur une au débat de l'entre-deux-tours de ce soir. Macron-Le Pen à l'heure de la grande confrontation, titre Le Figaro. La grande explication, ajoute Le Parisien aujourd'hui en France. Marine Le Pen face au débat de sa vie, peut-on lire en une de l'opinion. Écologie, cette fois on en parle, interroge Libération, qui rappelle effectivement que l'environnement est le grand absent de la campagne. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ce matin?
C'est l'une des arnaques les plus répandues en France en ce moment, celle à la carte vitale, et c'est Le Parisien aujourd'hui en France qui en parle ce matin. Le quotidien nous présente Laure, elle a 36 ans, elle est commerciale en région parisienne. Un jour, elle reçoit un SMS l'invitant à renouveler sa carte vitale. Elle se méfie pas, elle clique sur le lien inscrit dans le SMS, lien qui la renvoie sur un faux site ressemblant à amélie.fr, le site de l'assurance maladie. Alors, elle commence les démarches, précise son adresse postale. On lui demande de régler 99 centimes d'euros. C'est pas beaucoup, 99 centimes d'euros, afin de recevoir sa nouvelle carte vitale. Une lumière rouge aurait dû s'allumer. Même si la somme est dérisoire, la carte vitale est gratuite. Laure entre ses coordonnées bancaires quand même sur le site malveillant. Quelques jours passent et les voleurs passent à l'attaque. Laure reçoit des appels de différentes agences du Crédit Agricole en Ile-de-France. Le nom s'affiche sur l'écran de son portable. Ça a tout l'air d'appel de sa banque. sauf qu'il n'en est rien. Étant affiliée à une agence Crédit Agricole située en Haute-Garonne, Laure se méfie, elle ne répond pas. Et puis elle reçoit des SMS d'alerte en lui disant qu'elle est soi-disant victime d'opérations frauduleuses sur son compte. Elle commence un petit peu à avoir peur, Laure, elle appelle sa conseillère, sa vraie conseillère qui la rassure. Les SMS sont faux. Nouvel appel, cette fois du faux Crédit Agricole. Et Laure décroche. L'escroc au bout du fil lui dit qu'elle a été piratée, mais qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il passe du temps au téléphone avec elle, il gagne sa confiance, il lui explique qu'il faut qu'elle valide les transactions en cours. Et elle sera remboursée ensuite, pas de problème. C'est là que le piège se referme sur Laure, car le voleur, le faux banquier, a besoin d'elle en fait. Pour valider les achats sur Internet qu'il a effectués avec sa carte. Rappelez-vous, elle avait entré ses coordonnées bancaires pour régler les 99 centimes d'euros. Des achats en ligne de plus de 30 euros doivent être confirmés par un code secret. Donc Laure, elle valide. Et elle ne sera pas remboursée. Appel de sa vraie banque, elle est à découvert. L'escroc lui a volé 1230 euros. La banque dit de rien pouvoir faire, avançant l'argument que Laure a fait preuve de négligence en donnant ses coordonnées bancaires, même si la banque, le Crédit Agricole, reconnaît être victime de son côté d'une forte recrudescence de l'usurpation de ses numéros, car ce sont bien les numéros du Crédit Agricole qui appelaient l'or. C'est-à-dire qu'il y a une double arnaque. Voilà comment cette arnaque a été très très bien ficelée du début jusqu'à la fin.
L'article, c'est assez redoutable, hein.
Mais oui, tout le monde peut se faire prendre. Surtout qu'on recevait des SMS à l'époque du Covid, rappelez-vous. Donc du coup, c'est aussi pour ça que Laure, au début, ne s'est pas méfiée. L'article se termine en précisant que Dominique Strauss-Kahn a été victime aussi, et la cible de faux banquiers. Il a perdu, lui, 17 000 euros. Bah, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Bah oui, c'est proportionnel au revenu que vous avez.
Et aux achats qu'il a effectués sur Internet.
Voilà. Merci beaucoup. Omblin, Martin, c'est à vous.
Oui, on reparle ce matin des sanctions visant la Russie, alors qu'un embargo sur le pétrole russe est à l'étude, on y reviendra, que les avoirs des oligarques ont été saisis, ou encore que les compagnies aériennes russes sont persona non grata dans l'Union européenne. Une autre batterie de sanctions adoptée il y a quelques jours est passée sous les radars, celle visant les camions russes et biélorusses. Ils avaient jusqu'à samedi dernier, le 16 avril, minuit, pour quitter le territoire européen. On a donc assisté tout le week-end à une longue transhumance des poids lourds vers la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, occasionnant des bouchons monstres, des scènes qui curieusement nous ont rappelé le tout début de la guerre, quand les Ukrainiens fuyaient les combats et se ruaient eux aussi vers la frontière polonaise, mais dans l'autre sens.
On sait combien ils sont, ces camions ?
Alors, un expert cité par le Financial Times estime qu'ils étaient encore environ 10 000 à l'approche du week-end. Pour vous donner une idée, la file d'attente pour passer en Biélorussie s'étendait sur 80 km, la faute en partie aux Biélorusses eux-mêmes qui ont fermé certains poste frontière avec l'UE. Vous vous en souvenez, ça date de l'impressionnante crise migratoire de l'automne dernier. Alors, tous les camions n'ont pas pu passer. La BBC notait dimanche qu'encore des poids lourds tentaient de traverser la frontière. Combien ? 200, 400, difficile à dire. D'autant que des milliers d'autres sont probablement encore sur le territoire européen.
Et Martin, est-ce que l'Union européenne va mettre ses menaces à exécution et saisir ces camions ?
Eh bien, c'est délicat. Les Polonais notamment craignent des mesures de rétorsion alors que 3000 de leurs camions circulent, eux, côté russe et biélorusse. En tout cas, c'est une nouvelle crise dont se serait bien passé le secteur du transport routier, déjà très affecté par la guerre. Les transporteurs souffrent notamment d'un manque de main-d'œuvre suite à la défection des nombreux chauffeurs ukrainiens partis au front. Des perturbations qui pourraient là aussi redessiner les frontières économiques de l'Europe et forcer certains pays à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie, conclut le site Quartz. Face aux sanctions, les camions russes et biélorusses quittent l'Europe en catastrophe. C'est à retrouver sur le Courrier international.
Merci beaucoup, Martin. Effectivement, les images sont assez impressionnantes de ces longues files de camions qui patientent pour traverser la frontière. Alors, j'ai choisi pour ma part un article de West France qui nous emmène aux États-Unis, plus précisément dans une entreprise du Kentucky, Gravity Diagnostics, un laboratoire d'analyse médicale. Nous sommes le 7 août 2019 quand un certain Kevin Berling, un employé jusqu'ici sans histoire, s'apprête à aller déjeuner. Il prend la direction de la salle de repos, ouvre la porte, quand soudain... Surprise, joyeux Surprise. Anniversaire, s'exclament en chœur les collègues de Kevin sous une banderole déployée pour l'occasion. On imagine des serpentins, des cotillons, bref, tout le nécessaire pour une fête surprise. Une adorable attention qui malheureusement n'a pas du tout l'effet escompté. Pas un sourire, ni même un rictus. Kevin reste comme pétrifié, figé, son visage vire au rouge vif. Il quitte immédiatement la salle de repos pour se rendre sur le parking dans sa voiture où il affirme avoir eu une crise de panique. Il faut dire que Kevin déteste qu'on célèbre son anniversaire, à l'inverse d'Alban le Prince. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs liés au divorce de ses parents. Il s'en était même ouvert auprès de sa supérieure hiérarchique et l'avait prévenu. Il ne faut en aucun cas me souhaiter un joyeux anniversaire. adversaire, je déteste ça. Discussion qu'a donc visiblement oublié la responsable en question. Ce qu'elle n'a pas oublié, en revanche, c'est de convoquer le lendemain Kevin pour une petite explication. Et c'est là que les versions divergent. Mmh. Ta réaction excessive a cassé l'ambiance dans l'équipe. Tu as volé la joie de tes collègues. Lui aurait violemment asséné sa supérieure. Cette dernière explique qu'à l'inverse, c'est Kevin qui se serait montré agressif, poing et dents serrées, le visage rouge tomate une nouvelle fois et tremblant. « J'ai craint pour ma sécurité », dit-elle. « Il m'a dit « tais-toi » comme s'il s'apprêtait à me frapper. » Rien de tout cela, rétorque le salarié. C'était juste une nouvelle crise de panique. L'incident de trop pour son employeur qui décide donc de licencier Kevin au motif qu'il aurait fait preuve de violence au travail. Un licenciement que l'intéressé s'est empressé de contester en attaquant en justice l'entreprise pour discrimination en raison d'un handicap. Et il vient d'obtenir gain de cause. Un tribunal du Kentucky vient de condamner le laboratoire d'analyse médicale à verser à Kevin Berling donc 450 000 dollars de dommages et intérêts. Dans le détail, ça donne 150 000 dollars pour la perte de revenus et 300 000 dollars pour, je cite, l'humiliation, la perte d'estime de soi et la souffrance découlant des faits. Alors de son côté, l'entreprise réfute toute discrimination et dit ne pas avoir été informée des problèmes d'anxiété du salarié. Elle envisage donc de faire appel. Licencié après une fête d'anniversaire non désirée, il obtient 450 000 dollars en justice, c'est-à-dire sur le site de West France.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Alban,
non? Ouais. Non, mais moi je vais aller voir les boss après la matinée.
Il les a, les 450 000 dollars sur son compte, vous inquiétez pas.
Tu as volé la joie de tes collègues.
Oui, c'est terrible. C'est assez pathétique, hein, dans les deux sens.
C'est bien triste. Merci beaucoup, Julien, et merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. C'était le pressing sur Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Et c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Après s'être affronté à distance sur le terrain ces 10 derniers jours, face à face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir pour le débat d'entre-deux-tours, la candidate s'exprimera la première. Le président conclura le débat, premier thème abordé, le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs pour protester contre l'affiche du second tour que plusieurs lycées franciliens ont été bloqués hier par des élèves qui désiraient alerter sur le danger de l'extrême droite, l'urgence climatique et les inégalités sociales. Arrivé malheureux, troisième au premier tour, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole hier. Il appelle les Français à, je cite, « l'élire Premier ministre aux législatives en donnant la majorité aux Insoumis et à l'Union Populaire ». Et puis la guerre en Ukraine, au lendemain du début de la bataille du Donbass, Kiev a reçu des avions de chasse et des pièces détachées, affirme le porte-parole du Pentagone. Les États-Unis devraient par ailleurs adopter une nouvelle enveloppe d'aide militaire de 800 millions de dollars, selon CNN et NBC News.
Europe 1. C'est à présent la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes. Les initiatives en France nous emmènent en Gironde.
Bonjour Alexandre Fauché.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le cofondateur de Genius Objects, une jeune société bordelaise initialement spécialisée dans les fermetures éclairs connectées. Et vous avez lancé il y a quelques mois un produit qui prend soin de nous. Son nom, Pose, une pochette qui met en sommeil les téléphones portables. Expliquez-nous.
Alors Pose, bah, c'est pour faire des pauses, comme son nom l'indique. Donc le principe est très simple, vous glissez votre téléphone portable dans la pochette. C'est une pochette intelligente et quand on la ferme, elle détecte la présence du téléphone verrouillé à l'intérieur et au bout de 15 minutes, elle donne des points. C'est de la gamification pour s'éloigner un petit peu de l'écran.
Et en fait, ça calcule le temps qu'on passe loin de son téléphone, c'est ça ?
Alors, ça vous encourage à mettre le téléphone à distance physique. Aujourd'hui, vous avez des applications qui existent pour déconnecter un petit peu, pour mesurer le temps d'écran. Il y a des contrôles parentaux également. L'originalité de Pose, c'est la mise à distanciation physique. Quand le téléphone est dans la pochette, vous ne le voyez plus. Il y a des études qui prouvent que la simple présence du téléphone fait partie de l'addiction qu'on a tous un petit peu. Demander à un fumeur d'arrêter de fumer, la première chose qu'il va dire, c'est « je finis mon paquet ». Voilà, donc là, on ne voit plus le téléphone. Quand le téléphone est dedans, il est dedans, on ne le voit plus et on doit résister plus de 15 minutes. C'est un petit peu l'idée.
Et toutes les données sont envoyées sur une application, soit sur le téléphone en question ou sur le téléphone d'une tierce personne ?
Alors, Pose s'adresse à plusieurs populations. On a commencé pour les ados. Aujourd'hui, l'âge du premier téléphone, c'est un petit peu avant, c'est vers 9 ans. C'est très jeune. Et ouais. L'idée, c'est que Pose soit la conduite accompagnée du smartphone. Donc, prendre les bonnes habitudes. Donc, tu as un téléphone, c'est super, mais tu prends dès le départ les bonnes habitudes pour le ranger de toi-même, pour le mettre à distance, ne plus le voir, ne plus être tenté par ses notifications, ses messages, ses petites puces rouges qui invitent, qui sont un petit peu addictives, qui vont inciter à refaire ce geste tout le temps pour tout et n'importe quoi, vérifier quelque chose sur Internet, répondre à un message. Voilà. Donc, c'est Pose est à destination de ces jeunes. Et puis, nous, adultes, finalement, on est tous concernés. Donc, c'est aussi pour s'aménager des temps de déconnexion à travers le jeu. Donc, pour répondre à votre question, parents et enfants ont l'application quand il s'agit des jeunes enfants et des adolescents. Et ça va générer un dialogue familial. Ça va permettre une médiation, puisque le temps d'écran est la première source de conflit dans les foyers aujourd'hui où il y a des adolescents. C'est vraiment problématique pour beaucoup de parents. Et donc, effectivement, tout le monde va avoir l'application et on va se fixer des objectifs et des récompenses.
Oui. Et vous comptez aussi, je crois, vous attaquer au marché des entreprises, c'est-à-dire ?
Alors, je vous ai parlé des adolescents, des collégiens, mais en entreprise, je ne sais pas comment vous êtes avec votre portable, mais en tout cas, moi, de temps en temps, après le dîner, je suis tenté de vérifier mes mails, d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Et finalement, on ne décroche jamais. Et il y a ce côté aussi exemplarité pour nos enfants. C'est-à-dire qu'on leur dit lâche ton écran, mais finalement, il y a des familles où, quand on rentre du travail, quand on rentre dans l'école, tout le monde est un petit peu sur son écran et on est physiquement ensemble, mais on n'est plus vraiment ensemble puisqu'on ne partage plus du temps qualitatif. Donc pause, c'est un petit peu ça, c'est pour se dire chiche, on a un pack familial qui s'adresse justement à cette configuration-là pour se retrouver tous ensemble. Et donc l'entreprise, nous ce qu'on a aujourd'hui, on vend pause au grand public, on a un pilote dans une école, mais on commence le monde de l'entreprise parce qu'on pense que dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, effectivement, on propose des challenges de groupe pour dire tiens, chiche, le soir, on déconnecte tous ensemble. Et là, il y a un côté social de pause qui est vraiment intéressant. C'est on va tous cagnoter des heures de pause ensemble pour une cause, comme certaines entreprises utilisent la gamification aujourd'hui pour aller marcher. Nous, on propose ça avec le téléphone portable.
Vous avez mentionné une expérience pilote dans un établissement. En l'occurrence, c'est un collège de Poitiers, c'est ça, où une partie des élèves a sa petite pochette pour y mettre son téléphone portable ?
C'est exactement ça. Il y a une classe de cinquième et une classe de seconde, parce que les problématiques sont assez différentes. En cinquième, c'est prendre ou reprendre les bonnes habitudes. En cours, pas de téléphone. Et en seconde, on se rend compte que le corps enseignant est parfois en difficulté, très clairement. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent on a renoncé. Il y a des élèves qui regardent des séries en cours. Je ne vous raconte pas l'histoire, je l'ai entendu de leur bouche. Et on s'envoie des messages, etc. Donc c'est très difficile. Le portable prend trop de place et c'est pas aux enseignants de faire la police en permanence. En plus, ça peut prendre de problème quand on confisque, quand un enseignant sanctionne, il faut confisquer le téléphone. C'est compliqué en cas de perte, etc. Donc c'est une expérimentation qu'on mène sur effectivement un établissement sur Poitiers, Isaac de l'Étoile. Et c'est assez intéressant parce que c'est cette dynamique de groupe. On propose aux élèves des récompenses. Donc ça peut être une chocolatine au foyer au bout d'une semaine d'effort. Et il y a des belles dotations à la fin. Ils vont tous aller voir ensemble un match de basket au club de Poitiers. Donc tous ensemble on cagnotte et des petites récompenses individuelles. Et ça prend pas mal.
On peut se les procurer où, ces pochettes pause ?
Alors, pause, elles sont disponibles sur notre site internet, pause avec 3 Z, pozzz.com. Donc, on les vend en ligne. Le prix normal est de 49,90 € et elles sont remisées avec frais de livraison offerts en ce moment. Et on a des partenaires boutiques dans des distributeurs nationaux également qui distribuent pause aujourd'hui.
Ouais. Et est-ce que vous travaillez à d'autres formats que les smartphones, comme les tablettes ou les consoles de jeux portatives, qui elles aussi peuvent susciter quelques animosités au sein d'une famille ?
Alors on nous le demande. C'est vrai qu'il n'y a pas que le téléphone. C'est vrai que le téléphone c'est un gros souci, mais il n'y a pas que le téléphone. On travaille sur une version tablette pour l'année prochaine, pour effectivement avoir, on peut faire des pauses aussi avec sa tablette et c'est très bien. Donc il y aura d'autres formats. Et la console de jeu, il y en a une portative notamment qui a beaucoup de succès et on regarde ça de très près. On regarde ça de très près. Oui.
Entendu. Merci beaucoup Alexandre Fauché de nous avoir présenté Pause, la pochette connectée qui met les portables en sommeil. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt sur Europe 1.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à tous, bon réveil avec Europe 1 à suivre le journal de 5h30 de Christophe Lamarre où nous irons dans le Donbass, pilonné par l'armée russe et puis on va s'intéresser à une pénurie de main-d'œuvre. Cuisiniers, commis et serveurs sont activement recherchés.
Oui, on en recherche même beaucoup. Entre 200 000 et 300 000 offres d'emploi dans les métiers d'hôtellerie et restauration sont non pourvues. On craint une pénurie lors de la prochaine saison estivale. La pandémie, avec des conditions de travail difficiles et les multiples fermetures d'établissements ont laissé des traces. Comment rendre le secteur à nouveau attractif ? Donner envie aux jeunes qui entrent sur le marché du travail de choisir un poste dans un hôtel, un bar ou un restaurant. Nous serons dans un quart d'heure avec le président du GNI, le Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration.
Et puis juste après, la prescription ciné du mercredi.
Oui, Sandra Bullock et Daniel Radcliffe crapahutent dans la jungle à la recherche d'un trésor. Le secret de la cité perdue, ça c'est la comédie hollywoodienne par excellence du moment. Et puis Laurie Cheleva nous conseille aussi un film français qui fait peur, Ogre, avec Anna Giraudot.
La météo, Gérard, avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert. Toutes les infos sur murprotec.fr.
Anna Girardot.
Oui, voilà. Et Anissa Haddadi pour la météo. Voilà. Anissa, la France est un peu à l'image de la politique, c'est-à-dire oui. qu'elle est coupée en deux.
Ah, complètement coupée en deux. Et alors, en France, c'est la Loire qui va servir de frontière entre ces deux France aujourd'hui.
Comme souvent.
Une fois n'est pas coutume, c'est la moitié sud qui sera sous les nuages et la pluie. C'est là que la journée sera la plus maussade, avec de l'Occitanie jusqu'à la Provence, un ciel très couvert et menaçant. C'est sur le quart sud-ouest que les pluies sont les plus soutenues. On attend quand même des cumuls assez importants, des pluies fréquentes. Et puis on attend jusqu'à 30 cm de neige sur les montagnes du Pays Basque, 15 cm de neige sur la partie ouest des Pyrénées. Donc ça neige bien, il pleut beaucoup. Bon, c'est un temps, une journée vraiment assez maussade et presque hivernale dans le sud-ouest. Plus nous irons vers le nord, plus le ciel sera lumineux, avec même du grand et beau soleil au nord de la Seine. Dans l'après-midi, sur le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône, le temps va même virer à l'orage. Les températures, 3 à Charleville-Mézières ce matin, 5 pour Montluçon et Nancy, 8 à Paris et au Havre, 13 à Nice cet après-midi, comptez 14 à 21 degrés. Et cette fois-ci, du sud au nord, c'est à Paris qui fera le plus chaud, 21 degrés.
Entendu. Merci beaucoup Anissa Haddadi, bon réveil à tous. À l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mercredi, l'armée russe qui poursuit son offensive dans le Donbass. Dur combat autour de la capitale régionale Kramatorsk. Les Occidentaux réaffirment leur soutien à l'Ukraine. Nouveau train de sanctions et envoi d'armes lourdes. La présidentielle, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ce soir à la télévision et à suivre à partir de 20h sur Europe 1. 5 ans après leur première confrontation, les deux candidats sont prêts à en découdre. Et puis un jugement qui fera date. Deliveroo, condamné pour travail dissimulé, la plateforme reconnue coupable de ne pas avoir salarié ses livreurs.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'armée russe accroît sa pression sur le Donbass. Les bombardements succèdent aux tirs d'artillerie. Moscou jette toutes ses forces dans cette bataille qui pourrait décider du sort de la guerre. Kramatorsk fait figure de ville clé. La capitale régionale du Donbass est désormais l'une des cibles privilégiées, Guillaume Dominguez.
Oui, l'étau se resserre autour de cette petite cité industrielle. Dans la nuit de dimanche à lundi, la ville de Kramina, à 70 km au nord-est, dernier rempart avant Kramatorsk, est tombée aux mains de l'armée russe. Depuis, l'inquiétude gagne de plus en plus les habitants de la capitale du Donbass. Julien a 27 ans et vit encore sur place tous les jours. Il entend les combats se rapprocher.
Il y a quelques jours, ils étaient à plus de 50 km de la ville. Hier, 40 km. La situation est vraiment dure, vraiment violente. Il y a de plus en plus de soldats russes. Ils nous bombardent, des missiles, des roquettes et ainsi de suite.
Et les civils tentent à présent de fuir la ville. Plusieurs associations mettent à disposition des bus depuis la destruction de la gare la semaine dernière, mais eux aussi sont pris pour cible. Yaroslav dirige l'un des groupes de secours.
Maintenant, j'essaie de trouver des gilets pare-balles pour moi et mon équipe, particulièrement pour les chauffeurs de bus qui conduisent les habitants vers les zones d'évacuation. Si nous en trouvons, tout ira bien.
Kramatorsk compte en temps normal 150 000 habitants. Aujourd'hui, Yaroslav estime que plus des trois quarts ont déjà fui la ville.
Guillaume Dominguez, et hier soir, le président Volodymyr Zelensky a adressé un nouvel appel à l'aide aux Occidentaux. Si nous avions accès aux armes dont nous avons besoin, la guerre serait déjà terminée.
Message reçu 5 sur 5 par les Américains et leurs alliés. Un nouveau plan d'aide est en préparation et puis on semble franchir un cap avec l'envoi d'armes lourdes.
Les alliés s'y étaient refusés jusqu'à présent, surtout pour ne pas apparaître comme des co-belligérants aux yeux de Moscou. En réalité, le cap est franchi depuis une semaine avec l'envoi par Washington de pièces d'artillerie lourdes. Le porte-parole du Pentagone affirme par ailleurs que l'Ukraine a également reçu des avions de chasse, probablement des MiG-29 de fabrication soviétique.
Et cette aide militaire se double d'un soutien financier.
Washington débloque une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars, la deuxième en une semaine. Les Américains et les Européens se sont également mis d'accord pour adopter un nouveau train de sanctions à l'encontre de Moscou.
5h33 sur Europe 1, la campagne pour l'élection présidentielle, et c'est l'heure du débat. débat. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent ce soir à la télévision.
Une sorte de match retour de 2017. À l'époque, le débat avait été largement dominé par Emmanuel Macron. Ce duel télévisé constitue l'acmé de la campagne. S'il ne fait pas gagner une élection, il peut la faire perdre. Pour les journalistes qui vont l'animer, c'est aussi un moment fort. Laurence Ferrari avait dirigé celui de 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Elle parle d'un événement unique dans une carrière.
Tout est assez figé sur le timing parce qu'on a l'œil rivé sur le chrono, on a tant de temps sur le pouvoir d'achat, tant de temps sur l'international. Mais il y a un peu de marge de manœuvre et il y a cet imprévu, l'instantanéité, le direct, l'immatériel qui se produit, c'est-à-dire voilà, un candidat qui est porté, l'autre qui ne l'est pas.
Laurence Ferrari, le débat du second tour ce soir à partir de 21h, à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h.
Débat très attendu, mais du côté de la France Insoumise, on prépare déjà la suite, c'est-à-dire les législatives.
Élise et moi, Premier ministre, c'est le message adressé hier soir sur BFM par Jean-Luc Mélenchon. Éliminé de justesse au premier tour de la présidentielle, il rêve d'un troisième tour qui se jouerait à l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon compte sur les législatives de juin prochain pour l'emporter et imposer une cohabitation au futur président. Pour y parvenir, il appelle l'ensemble de la gauche à se rassembler derrière la France insoumise.
En attendant, l'actuel gouvernement fait déjà ses cartons.
Le coup d'envoi du départ a été donné par Jean Castex lui-même. Le chef du gouvernement l'affirme. En cas de réélection d'Emmanuel Macron, son gouvernement démissionnera le lendemain. Dans les ministères, on n'a pas attendu, on fait ses cartons et on archive les documents, Jacques Serret.
Oui, c'est une circulaire que nous nous sommes procurée, signée par Jean Castex, qui demande expressément aux ministres et aux membres de leur cabinet d'archiver l'ensemble des documents et des mails accumulés. Cela concerne tous les documents produits ou reçus durant l'exercice de leurs fonctions. Ils seront transmis aux archives de France, comme c'est la règle. Mais s'il est de coutume dans les travées des ministères de bien transmettre les documents administratifs, il y a aussi en fin de mandat cette pratique de supprimer les traces d'échanges sensibles de mails purement politiques, bien que ce ne soit pas autorisé. Alors en parallèle, l'heure est également à faire circuler les CV. Un ministre important a d'ailleurs fait un point ces derniers jours avec son entourage. « Souhaites-tu partir ou rester ?» a demandé ce poids lourd du gouvernement à chacun des membres de son cabinet. Et si certains sont sûrs de voguer vers de nouvelles aventures, d'autres restent dans l'incertitude totale à quelques jours de l'échéance de leur contrat. « Tout sera décidé en fonction du résultat de l'élection », lâche un conseiller. « Si c'est serré ou non, ce ne sera pas le même signal et donc ça va influer sur le potentiel futur gouvernement, abonde un autre, comme si leur sort dépendait directement de celui d'Emmanuel Macron.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Et notez que Louis Alliot sera l'invité de l'émission spéciale présidentielle entre 8h13 et 9h ce matin sur Europe 1. Le maire Rassemblement National de Perpignan répondra aux questions de Sonia Mabrouk. C'est un jugement qui fera date. La justice condamne lourdement Deliveroo pour travail dissimulé.
375 000 euros d'amende. La somme peut paraître dérisoire au regard du chiffre d'affaires de la plateforme. Plus de 200 millions d'euros en France. Mais c'est une première judiciaire. Deliveroo est reconnu coupable d'avoir employé ses livreurs sous le statut d'indépendant au lieu de les salariés. Une victoire symbolique mais de la plus haute importance pour maître Kevin Mention. Il défendait une centaine de coursiers.
Les faits qui ont été notés aujourd'hui comme délictueux se reproduisent dans d'autres plateformes. Il n'y a pas que Deliveroo qui est concerné. Ça prouve bien qu'il y a un problème aussi au niveau législatif. Les candidats à la présidentielle, par exemple, peuvent s'emparer du sujet puisque le tribunal a considéré que les actions de Deliveroo, notamment en termes de lobbying, aidaient même pour la Cour à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. Ce lobbying, il existe depuis des années. Dans pas longtemps, on prévoit des élections professionnelles pour ces travailleurs de plateforme. Aujourd'hui, ce n'est pas de simples élections professionnelles qui sont en fait un écran de fumée qui doit être mis en place, mais une véritable représentation du personnel, puisqu'on est devant des salariés, donc on doit avoir des délégués du personnel, un CSE comme dans toute entreprise, un comité d'entreprise aussi, auquel aucun n'a accès aujourd'hui.
Maître Kevin Mention au micro de Caroline Baudry. Le football, la Ligue 1 pourrait livrer une partie de son verdict ce soir à l'issue de la 33e journée. Paris décrochera un 10e titre de champion à deux conditions. Il devra battre Angers et espérer un faux pas de Marseille face à Nantes dans le bas du tableau, duel crucial pour le maintien entre Bordeaux et Saint-Étienne.
Allez, on s'évade avec un peu de littérature à présent et la sortie d'un nouveau roman d'un écrivain à succès.
La fabrique du suspense, dernier ouvrage de Michel Bussy, roman intégré à une nouvelle collection baptisée Secrets d'écriture, Nicolas Caro.
Dans La fabrique du suspense, Michel Bussy, l'auteur de Nymphéa noir ou Un avion sans aile, ouvre la porte de sa cuisine d'écriture et dévoile ses tours de passe-passe. Attention spoiler, mais ils sont indiqués par des petites étoiles pour ceux qui ne veulent pas tout savoir. Mais d'abord, il parle de lui, de comment il s'est mis en disponibilité de son métier de professeur de géographie quand ses romans ont commencé à bien marcher, de sa découverte des livres aussi plus jeunes et du suspense en particulier avec Agatha Christie, Mort sur le Nil. Et ensuite seulement, Michel Bussy présente les 20 commandement du suspense. Ne pas rater le départ, par exemple, c'est à la fin que tout se dévoile, bien sûr, mais la fin n'est rien sans un bon début. Mais puisque tout tend vers la résolution, il faut connaître le dénouement avant de commencer à écrire. Autre loi, semer un peu partout des cliffhangers, c'est-à-dire des moments suspendus à chaque fin de chapitre, jusqu'au twist final. Quant aux autres commandements, il faudra lire pour savoir. Suspense, suspense.
Nicolas Caro, La fabrique du suspense de Michel Bussy dans la collection Secrets d'écriture aux éditions Presse de la Cité.
Et c'était La fabrique de l'information avec Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Il y aura un quintet plus cet après-midi sur l'hippodrome de Cordemais. Une course aux trois attelés qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 9 ans. Et pour bâtir mon pronostic, j'ai privilégié les plus jeunes avec les numéros 8, Golden Visay, 7, Gitano Jack et 2, Galileo Bello, tous les 3 âgés de 6 ans et qui auront l'avantage de s'élancer en tête au premier poteau, le paramètre souvent déterminant pour réussir sur cette piste où il n'est jamais facile de rendre la distance. Derrière ces 3 priorités, je vous recommande Fashion Touch, le numéro 6, qui n'a qu'à répéter la valeur réalisée lors de sa victoire à Cherbourg le 27 mars pour conclure ici automatiquement dans les 5 premiers avec Fan de Vincennes, le numéro 3, 4e le 2 avril à Laval, derrière 2 de mes favoris, Golden Visay et Galileo Bello. Enfin les numéros 16, Fragonardello, 12, Eternel Dello et 13, Gamble River ont eux aussi quelques arguments pour revenir accrocher au moins une place dans ce quintet particulièrement ouvert et difficile à déchiffrer. Mon pronostic, 8, 7, 2, 6, 3, 16, 12 et 13.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et on retourne 60 ans en arrière ce matin, le 20 avril 1962, jour de l'arrestation de Raoul Salan, fervent défenseur de l'Algérie française et chef de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Élise, c'est l'épilogue d'un an de clandestinité et d'une traque, on peut le dire, acharnée.
Et oui, après le putsch d'Alger mené un an plus tôt par Salan et 3 autres généraux contre la politique algérienne de De Gaulle, Raoul Salan est condamné à mort. Il se cache, on pense qu'il est en Espagne, mais c'est bien à Alger qu'il sera arrêté en bas de son immeuble. La police encercle le quartier, Salan est pris au piège, les services secrets étaient parvenus à infiltrer l'OAS au plus haut rang. Ils réussissent leur opération après 13 tentatives manquées. Un soulagement pour le FLN, raconte à l'époque Guy Claes pour Europe 1.
L'arrestation de Salan a fait une énorme impression. À l'échelon des dirigeants FLN, cela s'appelle de la satisfaction. À l'échelon du militant, de la joie. Cette fois, ça y est, m'a dit l'un d'eux, l'OAS ne se relèvera pas. Elle est touchée au cœur et à la tête. Certes, les nationalistes algériens ne s'attendent pas à voir les attentats et les exactions de toutes sortes cesser d'un jour à l'autre. Ils savent que des hommes très dangereux, en particulier les ex-colonels comme Garde, Argou, sont encore en liberté et qu'ils peuvent faire beaucoup de mal. Mais ils pensent que le moral de l'OAS va être durement atteint et nombre d'entre eux estiment que la phase la plus cruciale devrait maintenant être passée.
Alors en effet, Élise, les attentats n'ont pas cessé, il y a même eu des représailles.
Oui, dès le lendemain, des commandos de l'OAS mitraillent les forces de l'ordre et pendant ce temps, Raoul Salan est reconduit en France. Il est amené à la prison de la Santé où des manifestants pro et anti-Algérie française l'attendent, comme le raconte Jacques Ourevitch pour Europe 1.
Il est 10h moins le quart en face de la prison de la Santé. Une cinquantaine de jeunes manifestants crient « Algérie française » tandis que de leurs cellules répondent les internés de la prison de la Santé. 10h moins 5 minutes, le cortège arrive, plusieurs voitures de police, des motards, des 403 de la gendarmerie, une quarantaine de voitures environ composent le cortège. Il a été impossible de déterminer dans quelle voiture se trouvait l'ex-général Salan. Une contre-manifestation s'est spontanément créée à l'angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé.
Le fascisme ne passera pas. Le fascisme ne passera pas.
Vive l'Algérie algérienne.
Non, non, française.
Jamais.
La
Toujours.
Le 23 mai 1962, Raoul Salan est condamné à la perpétuité. Il échappe à la peine de mort. 6 ans plus tard, l'officier le plus décoré de France obtiendra finalement la grâce présidentielle du général de Gaulle lui-même, qui en plein mai 68 voulait s'assurer de la loyauté de l'armée.
Merci beaucoup, Élise Dangean, et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, recherche employée désespérément dans les métiers de l'hôtellerie-restauration.
Le débat de l'entre-deux-tours.
L'événement politique est sur Europe 1.
Est sur Europe 1.
Il est 20h.
Emmanuel Macron.
Marine Le Pen.
Les finalistes de l'élection présidentielle n'ont plus que quelques jours pour vous convaincre.
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron.
Ce soir, Europe 1 vous propose une grande soirée politique.
À 20h, les enjeux.
À 21h,
le débat en intégralité.
Et jusqu'à minuit,
débrief et analyse.
Emmanuel Macron.
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
Emmanuel Macron.
Votre soirée spéciale débat.
Présentée par Alexandre Lemaire.
C'est ce soir dès 20h sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h44, très bon début de matinée à tous sur Europe 1. Après avoir souffert de la crise sanitaire et des restrictions, l'hôtellerie-restauration victime d'une crise de vocation. Alors le problème n'est pas nouveau, mais le secteur peine toujours à recruter du personnel. Il manque entre 200 000 et 300 000 employés aujourd'hui. On en parle en ligne avec le président du GNI, le Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration.
Bonjour Didier Chenet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Une crise de vocation des serveurs, des cuisiniers, des commis qui souhaitent travailler autrement, dans des conditions différentes, où il n'est plus question d'horaires tardifs ou de prise de poste de week-end. C'est le discours que vous entendez depuis la pandémie ?
Oui, tout à fait. La pandémie a, je dirais, mis en exergue une difficulté qui est aujourd'hui pour la génération qui arrive, la difficulté de rendre compatible vie professionnelle et vie privée. Aujourd'hui, la différence avec les générations qui les ont précédées, ben, ils ne sont pas prêts de sacrifier leur vie privée au profit de la vie professionnelle, quand bien même l'ascenseur social chez nous continue de fonctionner à plein. Et c'est pour cela que, si vous voulez, la grande difficulté pour nous, c'est de trouver la bonne réponse à leur attente, sachant que les salaires, nous avons donc déjà réévaluer considérablement les salaires, mais ce n'est pas la simple réponse. C'était une des réponses, nous le savions, mais maintenant, nous devons travailler sur tout ce qui est aménagement des horaires, avec les contraintes que nous avons, car notre métier fait que nous sommes donc, je dirais, au service des clients, et bien sûr lors du déjeuner, le dîner, les week-ends et les jours fériés.
Comment vous expliquez que le secteur pâtit d'un manque d'attractivité aujourd'hui ? Ce sont ces conditions de travail qui poseraient problème ?
Il y a eu certainement des problèmes de pouvoir d'achat que nous avons résolus, mais aujourd'hui, ce sont les conditions de travail. Quand vous rajoutez à cela le problème du logement, le problème du transport ou le problème des crèches, je vais vous prendre juste un exemple. Les crèches, elles ferment à 18h, 19h ou plus tard. Comment faites-vous quand vous travaillez dans notre métier ? Eh bien, c'est toute cette complexité. Il va falloir que nous trouvions, eh bien, je dirais, réponse à tout cela, ce qui n'est pas simple. Mais en tous les cas, nous y travaillons et nous sommes persuadés que nous allons pouvoir y arriver, même si nous n'arriverons pas à retrouver, je dirais, la totalité des salariés qui nous manquent.
Et quand vous parliez tout à l'heure de salaire, il faut renforcer des nouvelles mesures, être encore plus généreux, ce serait aussi l'une des clés ?
Je ne pense pas aujourd'hui. Encore une fois, Je pense que c'est plutôt le confort de vie, l'adéquation entre vie professionnelle et vie privée. Et nous travaillons là-dessus et le constat est partagé aussi bien dans les petites entreprises que dans les grands groupes. Donc ce n'est même pas une question simplement, quelquefois on peut penser que dans certains groupes on pourrait être mieux payé ou les horaires sont moins élastiques. Non, ce n'est même pas ça. Vous avez exactement le même problème qui est le problème, encore une fois, de la disponibilité que l'on demande dans nos métiers de service. Et cette disponibilité, il n'y a pas que la rémunération qui y répond.
L'UMI, l'autre grande organisation professionnelle du secteur, craint une, je cite, pénurie historique de personnel pendant l'été, alors qu'on s'attend à une saison exceptionnelle en France. Vous partagez ce sentiment ?
Écoutez, j'emploierai pas d'aussi grands mots, de pénurie historique, mais vous savez, on a déjà un manque de salariés de l'ordre de 200 à 250 000. Faut savoir que l'été, les saisonniers représentent à peu près 300 000 salariés. Donc on peut penser qu'il va nous manquer, oui, un tiers des effectifs. Ça s'est passé déjà pour la saison d'hiver, où nous avons manqué d'effectifs, à tel point que les professionnels sont obligés d'adapter leurs horaires parce que nous ne pouvons pas donc rester ouverts plus longtemps que prévu. Et puis, pour ce qui concerne les saisonniers aujourd'hui, les professionnels de la saison donc d'été, eh bien certains aujourd'hui envisagent d'ouvrir un peu plus tard parce qu'ils n'auront pas trouvé le personnel nécessaire. C'est effectivement quand même assez cruel. Mmh.
Tous les types de postes sont en tension, cuisiniers, commis, serveurs, ils sont tous concernés.
Oui, ce qui est assez exceptionnel. D'habitude, nous avions plutôt du mal au niveau de la cuisine et pas trop au niveau du service. Eh bien maintenant, nous rencontrons le problème aussi bien en cuisine qu'au niveau du service.
Et cela touche d'ailleurs plus la restauration que l'hôtellerie également.
Oui, parce que l'hôtellerie n'a pas les mêmes contraintes horaires. Vous ne faites pas le check-in, l'accueil, en totalité sur l'heure du déjeuner ou le soir au moment du dîner. Donc les horaires sont beaucoup plus étalés et c'est moins difficile, je ne dis pas que c'est facile, c'est moins difficile en tous les cas d'arriver à trouver du personnel pour l'hôtellerie. Mais ceci dit, l'hôtellerie connaît aussi un déficit.
Oui. Le secteur manquait déjà de bras hein, avant le Covid, c'est quelque chose que vous avez déjà constaté.
Oui, absolument. Nous étions déjà en manque. Disons que le Covid a un tiers de plus donc de personnel. Il nous manquait à peu près entre 180 et 200 000 salariés. Maintenant, il nous en manque près de 250 000 au total.
Avez-vous le sentiment que ce manque de personnel met aujourd'hui des établissements en péril ?
Alors, j'irai pas jusqu'à dire.
Craignez-vous peut-être ?
Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va les mettre en péril, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté pour les établissements, c'est de trouver l'équilibre financier qui va leur permettre donc de se maintenir. Si vous avez du personnel pour lequel vous arrêtez ce qu'on appelle la coupure, vous octroyez des week-ends complets, ça veut dire que vous êtes, dans la plupart de ces établissements, obligés de constituer deux équipes. Et tous les restaurants ne pourront pas le faire, et c'est pourquoi vous avez des restaurants qui ont décidé aujourd'hui de fermer deux jours par semaine, se contentant d'une équipe, sachant que là, l'équilibre économique est respecté. Sinon, si vous avez deux équipes, il faut vraiment que vous ayez une activité et un chiffre d'affaires très important pour pouvoir arriver à l'équipe.
Alors, comment pallier le manque aujourd'hui ? Faire venir des employés de l'étranger, comme pour les vendanges, par exemple ?
Oui, ce sera une réponse. Oui, bien entendu. Oui. Là, ce sera une réponse, si vous voulez. Bien entendu, il s'agit d'étrangers en situation régulière, je m'empresse de le dire. Mais effectivement, ça va être une des solutions. Et nous y travaillons aussi, bien entendu. Je ne le cache pas.
Merci beaucoup, Didier Chenet, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du GNI, le Groupement National des Indépendants, Hôtellerie et Restauration. Merci encore et bonne journée.
Merci et bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h51 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Alban Le Prince.
Elle aura le premier mot, il aura le dernier débat d'entre-deux-tours ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 21h. À suivre sur Europe 1, à 4 jours du scrutin, les deux finalistes à la présidentielle vont tenter de convaincre les indécis. Premier thème abordé, le pouvoir d'achat. Dans ce contexte de préparation au face-à-face, Jean-Luc Mélenchon appelle les Français à l'élire Premier ministre aux législatives. Il entend par là donner la majorité aux Insoumis et à l'Union Populaire en juin. Et puis une première en 10 ans, Netflix perd des abonnés, 200 000 au premier trimestre 2022, une nouvelle qui a fait dégringoler l'action de 25% hier.
Eh bien, de Netflix, on va tout de suite au cinéma.
Oui, ce sont les sorties de ce mercredi avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Ambline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Laurie. Une romancière un peu casanière et un mannequin bodybuildé se retrouvent en pleine jungle.
Oui, et je peux vous dire que c'est pas gagné pour eux. Le film s'appelle Le secret de la cité perdue. C'est la comédie d'aventure hollywoodienne par excellence. Sandra Bullock et Loretta Sage, une romancière d'aventure qui se fait voler la vedette par le mannequin de couverture de ses livres qui est joué par Channing Tatum. Alors qu'ils sont en pleine promo du dernier livre, elle est enlevée par un milliardaire excentrique persuadé qu'elle pourra l'aider à retrouver un trésor perdu.
Mademoiselle Sage, j'ai apprécié votre roman sur la cité perdue et je pense que vous êtes la seule qui puisse m'aider à trouver ce trésor.
Je crains de devoir décliner votre offre.
Je crains de devoir insister.
Oh non. Alain, qu'est-ce que vous fichez ici ?
On se croirait dans votre livre. Là, on est dans une aventure de Love, Mort et Dash.
On n'est pas dans un de mes romans. La jungle dévore les gens comme nous.
Ah, c'est quoi ça ? Oh. Elle me suce le derrière comme si c'était un smoothie. Oh.
On y est presque. Je crois que je vais trouver la cité perdue.
Bon, évidemment, quand on est en talons aiguilles et combinaison moulante à paillettes roses, en plus accompagnée d'un mannequin superficiel pas très dégourdi, les chances de survie dans la jungle sont quand même assez minces, hein, faut le dire. Non, c'est vraiment un film très drôle avec un duo improbable mais hilarant. À deux, ils vont vivre une aventure encore plus dingue que dans leur livre. Une vraie course au trésor, un peu forcée, cliché au départ, mais pleine de surprises et vraiment très drôle, je le répète, avec une mention spéciale à Daniel Radcliffe qui joue le rôle du méchant égocentrique. Et puis, le petit truc en plus dans cette aventure totalement loufoque, c'est Jack Trainer, un héros, un vrai, mais furtif. Mais ça vaut le détour puisqu'il est joué par Brad Pitt.
Et dans un tout autre registre, un film de genre, car on sait que vous êtes fan.
Oui, absolument fan de films de genre. Et cette fois, c'est Anna Girardot qui est traquée par un ogre dans Ogre, un premier film très réussi d'Arnaud Malherbe. Anna joue Chloé, une institutrice qui s'installe dans un tout petit village isolé avec son fils Jules. Elle est chaleureusement accueillie par les locaux, mais la disparition quand même récente d'un enfant pèse lourdement sur les habitants. Quant à Jules, son fils, lui, va faire de plus en plus de cauchemars. Mais est-ce que ce sont vraiment des cauchemars? Et c'est là tout l'enjeu du film.
C'était ton copain?
Ils ont cherché partout. On n'a pas le droit d'en parler.
Quand le village s'enfonce dans le nid, il grandit.
Vous trouvez ça normal? Faites rien!
Moi, je sais qui a fait ça.
Og, c'est vraiment un film d'atmosphère, on est sur le fil du début à la fin, il y a tout un travail sur le son, le bruissement des feuilles, le vent, les craquements dans la vieille maison, c'est très efficace. Écoutez justement Anna nous parler de l'ambiance terrifiante sur le tournage.
Quand j'avais dit à Arnaud, moi je veux absolument avoir peur sur le plateau, j'ai été servie parce qu'on tourne dans le Morvan qui est magnifique, mais c'est une forêt très dense, on est en plein milieu de la campagne, la maison était horrible et moi j'étais incapable de me balader seule dans une pièce. Non vraiment, j'ai eu plusieurs fois peur en tant que comédienne alors que j'étais quand même entourée de 40 personnes autour de moi.
Et autre mention spéciale, le jeune comédien Giovanni Pucci qui est absolument remarquable, qui joue aux côtés d'Anna Girardot, qui lui aussi a eu peur de l'ogre au démarrage et puis finalement il a familiarisé avec le comédien qui se cache sous le costume et ça s'est bien passé.
L'ogre que vous nous conseillez chaudement et puis Le secret de la cité perdue, deux films à voir en salle aujourd'hui. Merci beaucoup Laurie Choleva et on vous retrouve samedi entre 14h et 15h dans votre émission Clap sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et un duel au sommet.
Le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est ce soir à suivre dès 20h sur Europe 1. C'est le match retour d'il y a 5 ans, match qu'avait largement remporté celui qui allait devenir président de la République, bien aidé, il faut le dire, par les approximations et l'agressivité de Marine Le Pen. Deuxième round donc, d'un combat annoncé comme crucial pour chaque candidat. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que les débats d'entre-deux-tours ont traditionnellement un gros impact sur le choix des électeurs? Est-ce qu'une prestation ratée peut faire perdre l'élection et inversement? Autant de questions que l'on va poser dans une dizaine de minutes au politologue Arnaud Benedetti, spécialiste en communication politique. Et puis juste après, on bline votre partition.
Ils sont la version contemporaine des grands ensembles masculins des années 50 et 60. Leur cravate, leur costume assorti et leur casquette, ils ramènent le doo-wop et la musique soul dans les années 90, la partition des Boys to Men dans 20 minutes.
La météo avec Murprotec, leader de la lutte contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur. Diagnostic complet actuellement offert, toutes les infos sur murprotec.fr.
Je vois que les Boys to Men vous inspirent, Anissa Adani.
Ah bah oui, que de souvenirs.
Oui. Un temps perturbé sur la moitié sud.
Oui, parce qu'on a toujours cette dépression, cette dégradation hein, qui nous vient d'Espagne. Donc dans le sud, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, on a toujours des pluies qui vont durer toute la journée, c'est vraiment un temps maussade hein, sur le quart sud-ouest, avec même cet après-midi entre le Pays Basque et le Roussillon, et même jusqu'au sud du Massif Central, des orages qui éclatent. On va avoir des pluies très soutenues également sur les Cévennes, on attend des cumuls importants. Il neige toujours sur les Pyrénées avec des flocons à 1200 mètres. On attend entre 5 et 15 cm de neige à partir de 1200 mètres d'altitude. De l'Auvergne à la Côte d'Azur et même jusqu'en Corse. Donc vous voyez, hein, même jusqu'au sud-est, le temps vraiment est maussade avec des nuages très épais et de la pluie. Et sur la moitié nord, rien à signaler, c'est le printemps qui se poursuit puisqu'on a un bel anticyclone sur la Scandinavie. 3 à 13 degrés prévus du nord au sud ce matin.
Merci beaucoup Anissa Adadi. Vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison, nous sommes le mercredi 20 avril. Très bon réveil à tous, il est 6h. Prendre ou non son ticket de caisse après ses achats, le client doit avoir le choix. C'est ce que défendent des associations de consommateurs opposées à la suppression de ce bout de papier prévu par la loi dès l'année prochaine. Et vous, votre avis, on vous a posé la question. Est-ce que ce débat peut inverser la tendance face à face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ce soir? Le président candidat reste en tête dans les sondages à 4 jours du second tour. Et puis, le printemps est là, il est même à Bourges. La ville savoure le retour de son festival de musique pour la programmation alléchante. Rendez-vous à la fin du journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h qui vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Et vous, qu'est-ce que vous faites de votre ticket de caisse? Chaque année, un seul hypermarché utilise 10 000 rouleaux de papier, l'équivalent d'un Paris-Montpellier qui finit souvent froissé au fond d'une poche.
La loi anti-gaspillage prévoit de supprimer systématiquement ces reçus, et ce, dès l'année prochaine.
Un décret inacceptable pour 12 associations de consommateurs. Les clients doivent, selon elles, avoir le choix. Et eux, justement, qu'en pensent-ils? Avis partagé au micro d'Aurélien Fleureau.
Est-ce que vous voulez votre ticket de caisse? Voilà la question que les associations de consommateurs voudraient continuer à entendre dans quelques mois. Selon elles, ces tickets restent une indispensable preuve d'achat, notamment quand vous demandez le remboursement ou l'échange d'un produit, ou encore, comme c'est le cas de Fatima, une manière de faire ses comptes.
Je les prends parce que j'ai besoin de savoir ce que j'ai dépensé, savoir mes dépenses de la semaine.
De son côté, Daphné, 19 ans, est séduite par l'idée du geste pour l'environnement sans être 100% convaincue.
C'est pour la planète, je dirais que je suis pour. Surtout que moi, je ne les prends pas. Après, peut-être que quand je serai plus grande, j'en aurai plus besoin. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre qu'ils les suppriment parce que je trouve ça quand même utile si jamais il y a une erreur.
En revanche, pour Julien, pas de ticket. Pas de problème.
Je suis contre les tickets de caisse parce que c'est vrai que ça fait du papier. Pour ma part, je ne les regarde pas. Puis maintenant, tout est sur Internet au niveau des téléphones.
Et pour les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir, le ticket de caisse permet de s'assurer que le montant exact a bien été facturé ou d'éviter les éventuelles fraudes, notamment avec le paiement sans contact.
Les explications d'Aurélien Fleureau avec Noah Moussa pour Europe 1.
Et avant d'arriver à la caisse de votre supermarché pour payer, vous avez sûrement aperçu ces affiches au rayon condiments, celles qui imposent des restrictions sur les achats d'huile de tournesol.
Et quand il en reste, car dans certains magasins, les étals sont même vides, conséquence de la guerre, puisque l'Ukraine et la Russie assurent habituellement 80% des exportations d'huile de tournesol dans le monde. Des tensions d'approvisionnement alimentées aussi par le comportement de certains consommateurs qui stockent cet incontournable de notre cuisine. Les ventes ont bondi de 50% ce mois-ci. Une frénésie d'achat constatée par Johan Tritz dans ce supermarché parisien.
Je cherche de l'huile de tournesol. Vous n'en avez plus depuis combien de temps?
Comme cette cliente, ils sont nombreux un peu partout en France à poser cette question dans les supermarchés. Aujourd'hui, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare, constate Nadia, mère de famille.
Je trouve pas. Là, il y a Franprix qui est à côté. Ici, on n'a plus. À Carrefour, j'y étais, il n'y a pas. Même Monoprix, j'ai pas trouvé.
En cause, des rayons rapidement vidés à chaque réapprovisionnement. Raphaël, responsable d'un supermarché à Paris, n'a plus rien à vendre depuis plusieurs jours.
Les gens affluent sur l'huile et ont peur de manquer et en achètent parfois plus que de raison, donc 2, 3, 4, 5 bouteilles par personne. C'est ça qui crée aussi la pénurie. On va être vide jusqu'à jeudi matin.
Une pénurie qui fait gonfler les prix, entre 25 et 30% de hausse en France en 2 mois. Et cela impacte évidemment les restaurateurs comme Cyril, gérant du French Coco, qui l'utilise pour les fritures.
Nous, on est à peu près à 20 à 30 litres par jour. Le prix a doublé. Sur notre carte, on va être à 15 à 20% sur produits en friture. C'est sûr que ça réduit énormément nos marges.
Et si cela perdure, il n'aura plus le choix. Il devra, comme beaucoup d'autres restaurateurs, augmenter le prix de ses plats prochainement.
Le reportage de Johan Tritz.
Notre pouvoir d'achat, ce sera aussi le premier thème abordé ce soir lors du débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
8 thématiques, dont l'international, la sécurité ou l'environnement en toute fin de soirée. Un duel crucial que vous pourrez suivre en direct sur Europe 1, rendez-vous dès 20h. Et dans l'arène, Emmanuel Macron bénéficiera d'un avantage. Son avance dans les derniers sondages, plus de 10 points séparent les deux candidats. Le président qui est notamment en tête chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
La consigne de l'ex-candidat insoumis a visiblement été entendue. Pas une voix pour Marine Le Pen, voilà ce qu'il avait demandé à ses électeurs le soir du premier tour. Une consigne répétée à nouveau hier soir sur BFM TV. Écoutez.
Je ne vois pas au nom de quoi j'irai leur dire, faites ceci, choisissez celui-ci ou choisissez celle-là. Je leur dis, ne votez pas pour elle, mais ne vous abstenez pas, restez acteurs de votre histoire. Et ensuite, on fait avec sa conscience, chacun. Je ferai avec ma conscience, d'autres feront avec leur conscience. Autour de moi, les avis sont extrêmement divers. Mmh. Et je suis le représentant de toute la famille. Mon but, c'est pas d'en casser la moitié pour faire plaisir à Monsieur Macron ou à je ne sais qui, ou à Madame Le Pen. Mon but, c'est de garder rassemblés les 11 millions de voix pour qu'elle devienne la prochaine majorité.
Jean-Luc Mélenchon qui vise les élections législatives en juin prochain, un troisième tour pour le leader insoumis, qui a demandé aux Français, je cite, de l'élire Premier ministre grâce à une majorité de députés.
Une hépatite d'origine inconnue inquiète l'Organisation mondiale de la santé.
L'OMS a lancé des recherches après des cas graves d'inflammation du foie. Une centaine de signalements recensés dans 6 pays, dont la France. Une maladie qui a une particularité à ce stade, Céline Géraud, elle ne s'attaque qu'aux enfants.
Effectivement, c'est une inflammation qui ne touche que les enfants de moins de 10 ans. Certains sont hospitalisés et 6 d'entre eux ont subi une transplantation du foie. Les symptômes, diarrhée, vomissements, douleurs abdominales, démangeaisons, jaunissement des yeux et de la peau. Et pour Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil, difficile de savoir à ce stade si l'origine de cette hépatite est virale ou environnementale.
Il y a un virus qui est suspecté, qui est une famille de virus qui s'appelle les adenovirus, mais qu'on retrouve très 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 souvent chez l'enfant. Donc c'est pas du tout sûr que ce soit ce virus-là qui soit responsable. Dans les hépatites graves, les premières causes ne sont plus les virus, ce sont des causes toxiques. Tout le monde connaît le paracétamol, le fameux doliprane. Quand on en prend trop, ça peut donner une hépatite virale toxique, mais il y a beaucoup d'autres médicaments. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas complètement étonné de voir des cas sans cause retrouvée et les explorations sont en cours.
Hier, à Lyon, 2 cas suspects ont été identifiés, 2 enfants de 3 et 7 ans. Des investigations sont en cours pour déterminer s'il s'agit bien de cette nouvelle forme d'hépatite.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.
Europe 1, où vous pourrez écouter le débat d'entre deux tours ce soir, religieusement assis sur votre canapé. J'imagine que c'est le choix que certains d'entre vous feront. D'autres profiteront du printemps à Bourges dans une ambiance qu'on peut supputer un peu plus chaleureuse.
Voilà, le festival de musique a démarré hier avec Gaëtan Roussel, Dutronc. Et Dutronc, c'est jusqu'à dimanche. Et le printemps de Bourges, c'est surtout le coup d'envoi de la saison des festivals 2022. Cette fois, ouf, sans masque. La programmation alléchante avec Naïma Bencheman.
La fête de la 46e édition du printemps de Bourges ne sera pas gâchée comme les deux dernières. Aucune restriction pour le premier gros festival de l'année, prévient le directeur Boris Vedel.
Alors cette année, c'est tout simplement la joie. C'est la joie de retrouver une édition normale, et le normal est devenu exceptionnel. Là, on retrouve toutes les dimensions du festival, et elles sont nombreuses, et ça fait très plaisir.
Cette année, 150 artistes, 50 spectacles, une programmation riche, quasi paritaire, et un public qui est au rendez-vous.
On peut citer Clara Luciani, on peut citer Dutronc et Dutronc, père et fils, qui font leur premier concert en festival chez nous. Printemps, c'est vraiment un festival de jeunes talents. Il y a beaucoup, il y a 65% de la programmation qui sont des jeunes talents. Et puis, on s'est peut-être un peu déshabitué d'aller en festival, mais là, on voit que la tendance est vraiment à la hausse. Et globalement, avec tout ce qui se passe dans la ville, c'est plus de 200 000 festivaliers qui vont être sur le festival. Donc, on est très heureux d'avance.
Nouveau départ pour le bal des festivals de l'été 2022 avec ce vent de liberté qui souffle sur le printemps de Bourges.
Voilà, Juliette Armanet qui sera sur scène ce soir comme Vianney. Il reste même des places, Julien, pour l'anniversaire d'Alban Le Prince, pourquoi pas? Nous inviter tous.
Oui.
Ouais, bonne idée. Ouais. Allez, ça marche, on fait ça.
Non, elle est incroyable, elle. Merci beaucoup, Romain. Ok.
Alors, je vous laisse vous organiser, puis nous, on passe au sport. Le journal des sports de Martin Lange et le PSG pourraient être sacrés champions de France dès ce soir.
Oui, les Parisiens se déplacent à Angers s'ils l'emportent et que dans le même temps Marseille ne gagne pas. Les joueurs de la capitale remporteront un 10e titre de champion de France. Mais sur le prêt, il faudra faire sans Messi, Neymar ou encore Verratti. Les jeunes devraient avoir du temps de jeu, tout comme Sergio Ramos, annoncé titulaire. Marseille, je vous en parlais à l'instant, qui reçoit Nantes. Des Olympiens qui veulent à tout prix conserver leur deuxième place directement qualificative pour la Ligue des Champions. Pour cela, ils comptent évidemment sur leur maître à jouer, Dimitri Payet, un ancien Nantais qu'Antoine Comboret, l'entraîneur des Canaries, aurait adoré coacher. On l'écoute.
C'est le joueur phare donc, de cette équipe de Marseille. Il est sorti du centre de formation de Nantes. Hein. C'est un joueur que j'aurais rêvé d'avoir donc, dans mon effectif, dans mon équipe. Là. Il a des stats exceptionnelles.
Hein. À noter aussi hein, dans la course à l'Europe, Strasbourg qui reçoit Rennes ou encore le derby azuréen entre Monaco et Nice.
Match à enjeu aussi en bas de tableau, Martin.
Oui, le match de la peur entre Bordeaux et Saint-Etienne. Une défaite mettrait les Girondins à 7 points de leur adversaire du soir. Presque rédhibitoire aussi près du but. Mais le coach bordelais, hein, David Guion, croit au sursaut après la claque reçue contre l'OL le week-end dernier.
C'est pas en refaisant le match de dimanche soir qu'on va gagner le match. Je considère que c'est un accident. Mais je sais aussi que c'est une équipe qui est responsable. Je sais qu'elle est capable de se sublimer. Maintenant, on se projette sur Saint-Etienne.
Enfin, pour clore la page foot, hein, le joli geste des supporters d'Anfield. Une minute d'applaudissements et le fameux You'll Never Walk Alone en hommage à Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or a annoncé lundi avoir perdu un de ses enfants mort-né. Sur le terrain, Liverpool a corrigé Manchester United 4-0.
On passe au cyclisme avec un champion du monde dans son jardin.
Oui, Julien Alaphilippe dispute cet après-midi la Flèche Wallonne, vainqueur de 3 des 4 dernières éditions. Le Français fait évidemment partie des favoris, mais on surveillera tout de même la nouvelle terreur du peloton Tadej Pogacar.
Enfin Martin, un mot de basket.
Oui, avec le début des quarts de finale de l'Euroleague et un choc pour Monaco, la Roca Team affronte l'Olympiakos et ses 3 Euroleague au palmarès.
Merci beaucoup Martin Lange, c'était le Journal des Sports.
Restez avec nous dans un instant, le spécialiste en communication politique Arnaud Benedetti sera notre invité. On va évidemment s'intéresser au débat de ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, débat qui sera à suivre en direct sur Europe 1 à partir de 20h.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h12 sur Europe. Votre invité Julien est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, spécialiste en communication politique.
Bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1 alors que s'approche à grands pas le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce sera à vivre ce soir dès 20h sur notre antenne. Débat présenté partout comme crucial pour les deux candidats. Est-ce qu'il est vraiment crucial ce débat, Arnaud Benedetti ?
Alors c'est vrai que nous avons eu quand même une campagne électorale très singulière par rapport aux autres élections présidentielles sous la Ve République. Donc de ce point de vue-là, il a bien évidemment une singularité. Après, c'est vrai que ce que l'on constate des débats lors des élections présidentielles, et c'est ce que montrent la plupart des études politologiques en la matière, c'est que un débat ne peut pas être considéré comme un élément qui, in fine, va, disons, faire l'élection. Il n'y a aujourd'hui aucun moyen de véritablement voir si cette figure totémique de la communication politique a un impact ou non. Elle a un impact au sens où elle peut faire perdre un candidat. On l'a vu en 2017 où Marine Le Pen a bien évidemment perdu beaucoup de son potentiel électoral lors de cet exercice. Mais ensuite, pour ce qui concerne les gains, c'est véritablement quelque chose qui est très 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 difficile à quantifier.
Habituellement, qu'est-ce qu'on retient le plus de ces débats d'entre-deux-tours ? L'image renvoyée par les candidats ou le contenu des échanges ? Qu'est-ce qui prime aujourd'hui aux yeux des électeurs ?
Alors, vous savez, quand on regarde l'histoire des débats présidentiels sous la Ve République, qui ont commencé, il faut le rappeler, en 1974, très souvent, on retient une phrase, une formule. On se souvient qu'en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait eu cette phrase.
Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Vous n'avez pas le monopole du cœur. Que François Mitterrand, en 1981, avait rappelé à Valéry Giscard d'Estaing qu'il était l'homme du passif. On se souvient également de François Mitterrand et de Jacques Chirac en 88, lorsque François Mitterrand rappelle à Jacques Chirac qu'il est son premier ministre. Donc il y a en effet parfois des formules qui restent. Il reste parfois aussi des plans de coupe, on l'a vu lors du dernier débat de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est Marine Le Pen qui est un peu plongée dans ses fiches pendant que Emmanuel Macron s'adresse à elle. Il reste quelques images, il reste quelques formules. Ce qui est très important, c'est ce qu'en disent les commentateurs juste une fois le débat achevé. En fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture des commentateurs et ensuite, très rapidement ensuite, il y a la lecture de l'opinion publique.
Ouais. Pour en revenir à l'image, ça explique aussi pourquoi ce débat fait l'objet, et les précédents également, d'âpres négociations en coulisses. Il y a les plans de coupe, vous l'avez rappelé, il y a aussi la couleur du plateau, la température ambiante, 19 degrés, pas un degré de plus, tout est discuté dans les moindres détails. Au risque peut-être de perdre l'essentiel, non ?
Oui, les équipes de communication, bien évidemment, sont à leur affaire lorsqu'il s'agit de préparer ce type d'exercice. Il s'agit finalement d'amener le débatteur dans les conditions de confort maximales pour qu'il puisse performer au mieux. Donc, il y a, si vous voulez, une forme de professionnalisation au fur et à mesure des années de l'organisation de ces débats. Mais ce qui reste quand même d'un débat, c'est le contenu, fort heureusement.
Alors, au moment où l'on se parle, Arnaud Benedetti, si l'on en croit les toutes dernières enquêtes d'opinion, Emmanuel Macron l'emporterait dimanche soir avec plus de 55% des voix, soit une avance théorique relativement confortable. Pour autant, est-ce que c'est le président sortant qui aura le plus de pression ce soir ?
Marine Le Pen joue gros parce que on a tous en tête l'image de son débat raté de 2017. Donc il faut qu'elle rattrape ce déficit d'image. Disons que si elle fait un débat qui est d'une qualité supérieure à celui de 2017, elle aura déjà remporté une demi-victoire. Ensuite, en effet, pour elle, ce débat est important parce que, compte tenu de l'écart aujourd'hui qui semble s'objectiver dans les intentions de vote, il est un levier qui peut lui permettre, d'une certaine manière, de réduire cet écart. Ensuite, pour ce qui concerne Emmanuel Macron, le véritable enjeu pour lui, c'est finalement peut-être d'essayer de montrer qu'il n'est pas dans une surassurance par rapport à sa concurrente. On reproche
de ne pas paraître arrogant, c'est ça.
Voilà, on reproche parfois à Emmanuel Macron une forme de mépris, voire une forme d'arrogance, comme vous le dites. Il faut qu'il soit capable, finalement, de montrer qu'il n'y a pas une asymétrie fondamentale entre sa challenger et lui-même à l'occasion de ce débat. Pour l'une, il s'agit de montrer, finalement, qu'elle a progressé, qu'elle est en maîtrise d'un certain nombre de dossiers techniques. Quant à l'autre, il s'agit de montrer qu'il est capable, à un moment donné, de faire preuve d'une certaine forme d'humilité ou de modestie. Donc, les enjeux d'image sont différents.
Ça risque de donner, excusez-moi de le dire ainsi, mais un débat assez terne au final, si on a deux candidats qui se brident l'un et l'autre.
Nous n'en savons rien parce que la réalité, c'est que cette élection présidentielle est totalement atypique et que pour Marine Le Pen, ce débat est extrêmement important. Je crois qu'il y a une réalité par rapport aux élections présidentielles précédentes qui s'imposent, c'est qu'on a un champ politique qui est beaucoup plus volatile et une opinion publique qui est beaucoup plus volatile. Ce qui fait que finalement, ce débat a peut-être une singularité différente de celle des débats que l'on a connus et c'est ce qui peut-être le rendra peut-être finalement beaucoup plus passionnant qu'on l'imagine à ce stade.
Arnaud Benedetti, en l'état, au regard de ce que vous avez vu de sa campagne, est-ce qu'Emmanuel Macron peut être autre chose qu'un candidat pour qui l'on vote par défaut sans grand enthousiasme ?
À ce stade, il est clair que finalement Emmanuel Macron essaye de capitaliser non pas tant sur son projet que peut-être sur son bilan, sa capacité à avoir, en tout cas aux yeux de ses partisans, surmonté un certain nombre de crises. Et puis, évidemment, il capitalise sur ce qu'il reste de Front Républicain dans la société politique française. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui, sa ressource politique principale. Pour Marine Le Pen, en l'occurrence, elle fait un peu de la même manière, c'est-à-dire sa capacité, comme je le disais précédemment, à montrer qu'elle est en mesure de maîtriser un certain nombre de dossiers, mais également sa capacité à activer l'antimacronisme qui peut exister dans la société et dans l'opinion publique française.
Au-delà du débat en lui-même, Arnaud Benedetti, est-ce que les audiences de ce duel télévisé seront un élément important à même de donner une indication sur la participation dimanche pour le second tour ?
Elles seront importantes surtout pour mesurer quel est l'intérêt des Français à l'égard de cette élection et à l'égard de la politique. La réalité, c'est que l'on voit, élection après élection, des taux d'abstention qui progressent. Alors certes, le taux d'abstention de cette élection est moindre que ce que l'on attendait, mais il reste historiquement haut. C'est le deuxième taux d'abstention pour un premier tour le plus important depuis l'élection de 2002. Donc en effet, la question de l'audimat sera une mesure d'abord pour en effet essayer d'observer quelle sera l'intensité de l'engagement des Français durant cette élection, mais aussi l'intensité de leur lien finalement au débat politique et aux institutions.
D'autant que depuis la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'accroît entre le premier et le deuxième tour.
Oui, très souvent, c'est ce que l'on constate, et on l'avait vu en 2017, où un certain nombre d'électeurs du premier tour ne s'étaient pas rendus aux urnes.
Alors qu'il y avait Marine Le Pen au second tour, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans.
Oui, voilà. Et là, il y a un véritable enjeu, notamment avec un certain nombre de segments électoraux. Je pense notamment à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. On sait très bien que les mélenchonistes sont, pour une part, fortement tentés par l'abstention. Donc là, en effet, on a un phénomène qui sera très intéressant de mesurer.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, « Comment sont morts les politiques ?» C'est une question, « Le grand malaise du pouvoir ». C'est aux éditions du CERF. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h21, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
C'est le grand jour, celui du débat d'entre-deux-tours pour les finalistes à la présidentielle. À 4 jours du scrutin, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se feront face ce soir à 21h. Match retour de 2017 à suivre évidemment sur Europe 1. Après la gifle infligée dans les urnes au PS pour le premier tour, les socialistes se sont réunis hier en Conseil national. Le parti a adopté dans la soirée une résolution envisageant un accord avec la France insoumise pour les législatives. Décision alors que Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour à 420 000 voix de Marine Le Pen, a appelé hier soir les Français à l'élire Premier ministre en donnant la majorité aux insoumis et à l'Union populaire aux législatives en juin.
On termine avec votre partition, Omblin. Ils ont été les représentants d'un pan de la culture afro-américaine dans les années 90. Les Boyz II Men ressuscitent la grande époque des harmonies vocales.
Issus de l'école doo-wop, gospel et soul, imprégnés par la musique rhythm and blues qui sortait des studios du label Mythic Motown, les Boyz II Men, Julien, offrent un nouvel élan aux ensembles masculins qui ont connu la gloire 20 ans plus tôt. Ils sont, si vous voulez, la version contemporaine des groupes comme les Temptations, avec le soliste qui entonne la mélodie et les autres voix et qui fournissent le support harmonique.
Les arrangements des musiques sont aussi travaillés que les looks.
Oui, costumes scintillants ou vestons et nœuds papes, les arrangements sont aussi travaillés que les chorégraphies. Comprenez bien, en 1991, les Boyz II Men constituent un prototype du boys band moderne et ils vont inspirer les suivants, comme les Backstreet Boys.
Alors pour resituer, c'est à cette époque que dans les quartiers pauvres des États-Unis, le hip-hop se radicalise.
Oui, et en marge de ce courant plein de colère, des artistes décident de prendre le contre-pied de cette tendance. L'insolence de l'un contre le sex appeal et l'hypersensualité de l'autre, les Boyz II Men sont les gentils garçons du quartier. Et il est là tout le génie marketing. Leur musique, gorgée de mélodies pop, plaît aux jeunes filles des deux communautés noires et blanches, et elle plaît aux parents.
Le groupe se forme en 1988 dans les couloirs du lycée des arts de Philadelphie.
Une école qui ressemble à celle du film Fame. Après s'être reproduits ensemble lors d'une fête de l'école pour la Saint-Valentin, les Boyz II Men ont le courage de se faufiler dans les coulisses d'un concert de leur idole, New Edition. C'est un groupe vocal des années 80 calqué sur les Jacksons. Ils impressionnent l'un des membres, Michael Bivins, qui décide de les produire.
Le premier album des Boyz II Men sort chez Motown.
Et voilà, la boucle est bouclée. Les Boyz II Men entrent dans l'histoire et ils atteignent le statut de légende grâce au prince noir du nouveau son romantique du rhythm and blues, dont le visage poupin lui a valu le surnom de Babyface. Les clients du producteur Babyface s'appellent Mariah Carey, Mary J. Blige, Lionel Richie, Eric Clapton. Il compose et produit pour les Boyz II Men la chanson qui va battre le record détenu par Elvis Presley depuis 1958. End of the Road reste 13 semaines numéro 1 aux États-Unis.
Thank you.
The Boys to Men avec End of the Road qu'on entend dans le film Boomerang avec Eddie Murphy, film qu'on a oublié mais pas la bande originale. Le premier album du groupe de Philadelphie baptisé Coolie Eye Harmony est sorti il y a 31 ans.
Bah voilà, merci beaucoup Omblin, The Boys to Men, voilà qui semble interpeller Pierre Devineau. Bonjour Pierre.
Bonjour, Eddie Murphy habillé par Thierry Mugler dans le film Boomerang s'il vous plaît en 1992.
Pardon,
ouais.
Pardon.
Ouais, c'était. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça.
Mais si, non mais si, vous apportez un élément.
C'est à vous là.
Ah,
ça y est,
déjà, ouais.
On vous dit bonjour.
Ouais. Mais alors, ben moi je vous dis au revoir.
Voilà. À demain.
Merci les amis.
Avec plaisir.
À demain pour de nouvelles aventures.